Rock us almost dead. Cost a self-pity party is over. Maintenant, sur Radio Galak 101.8. Bonjour, bonjour et bienvenue. C'est Rock is Almost Dead. Aujourd'hui, un spécial Rock is Almost Dead. Le thème, les ovnis, la vie extraterrestre et le disque d'or dans l'espace. Nous avons une interview très intéressante avec Georges Combe, réalisateur de nombreux films et documentaires. Son dernier film, Le Temps des ovnis, a été projeté l'été dernier au Festival international du film insolite de Rennes-le-Château. C'est une histoire sonore de notre planète. Mettez vos chapeaux en aluminium, nous allons faire un tour. Je vous souhaite une excellente écoute. On commence avec Starman de David Bowie. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is so he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. Starman waiting in the sky.
rock is almost dead, rencontre des phénomènes surnaturels et Georges Combes, réalisateur de nombreux films et documentaires. Il présente son œuvre « Le temps des ovnis » sur le Festival international du film Insolite de Rennes-le-Château. Je suis ravie de vous accueillir pour cette petite interview.
Merci.
Est-ce que vous êtes arrivé en voiture ou en vaisseau spatial ?
Non, je suis arrivé en TGV, tout bêtement.
L'homme n'est pas seul. Les ovnis ne sont plus seulement dans les tabloïds des supermarchés, mais sont pris un peu plus au sérieux par les experts. Ma première question, quelle est votre attitude vis-à-vis de l'inexpliqué ?
Ouh là là ! Eh bien, vis-à-vis des ovnis, ça fait 8 ans que je travaille sur le film. Et plus je travaille sur le film, moins je sais ce que c'est. Donc mon attitude est un peu floue. Alors, il y a deux premières hypothèses. Ou ça vient d'ici, ou ça vient d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre solution. Les deux solutions ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Ça peut être les deux à la fois. Ça peut être, ils viennent que d'ailleurs, donc d'une autre planète. Ou ils viennent que d'ici. Alors s'ils viennent d'ici, il y a deux solutions. Soit c'est des hommes, tout simplement, qui fabriquent des machines bizarres qu'on ne connaît pas, mais qui marchent et qui nous étonnent. Ou alors ce sont des non-humains qui se sont établis ici, qui se cachent bien et qui nous envoient de temps en temps des petites machines pour nous faire un petit bonjour. Voilà.
Comment jugez-vous les rapports d'observation d'OVNI et comment évaluez-vous les preuves, les photos, etc., souvent très floues ?
Alors, c'est une très bonne question parce que j'ai essayé d'y répondre au tout début du film. Et c'était le gros problème parce que faire un film sur quelque chose dont on ne sait pas si ça existe, que très peu de gens ont vu finalement, et c'est compliqué. Et d'autre part, on n'a pas d'archives très fiables. Parce que la plupart des gens peuvent dire c'est des montages, c'est des méprises, c'est des canulars, puis c'est souvent tout flou, on voit rien, ça prouve rien du tout. Donc ça a été un des problèmes du film, c'est-à-dire comment montrer quelque chose qu'on dit qu'il n'existe pas, mais je pense qu'il y a quelque chose, et même le Pentagone dernièrement a affirmé qu'il y avait quelque chose, mais dont on n'a pas grand-chose comme image, ou toujours les mêmes qui tournent un peu en boucle et qui finalement s'épuisent.
Pensez-vous que nos projets technologiques que puissent nous en amener jusqu'au voyage spatial puissent venir d'un éventuel aide extraterrestre ?
Voilà, encore une bonne question. Alors, il y a une première chose qui apparaît, c'est que depuis 100 ans, au moins, même déjà un peu avant, mais depuis une centaine d'années, l'humanité a fait beaucoup de progrès technologiques. Et pour faire un voyage spatial, il faut maîtriser au moins trois technologies. La fusée, ça on sait faire. L'informatique, ça on commence à savoir faire. L'intelligence artificielle, etc., etc. Et il faut maîtriser aussi alors la fusée, l'informatique et l'énergie. Parce que l'énergie qu'utilisent nos fusées n'est pas possible pour faire un voyage très lointain. Et donc, il faut une énergie qui soit essentiellement nucléaire. Note pas la fission nucléaire, mais la fusion nucléaire. On travaille actuellement, d'ailleurs le film en parle, notamment avec ITER, qui est construit actuellement en Provence. Donc, trois domaines où il faut acquérir une grande maîtrise, l'informatique, la fusée et l'énergie nucléaire.
Pouvez-vous décrire aux auditeurs comment vous avez abordé le sujet dans le temps des ovnis et quelles questions et quels faits abordez-vous dans votre film ?
J'ai essayé de faire le tour de toutes les questions et de tous les faits. S'il y a un voyage et s'il y a une véritable aventure. Donc le film est une aventure que j'ai vécue moi-même et que j'espère faire partager aux spectateurs. C'est une aventure, c'est même plus qu'une aventure, c'est une quête. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça remonte. Les ovnis ont fait démarrer l'histoire autour des années 40-45, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est juste, mais c'est partiel. Parce qu'en fait, les ovnis, il y en a eu avant. On peut remonter très haut. Le film montre l'hypothèse extraterrestre pour expliquer la vision d'Ézéchiel dans la Bible. Où le prophète Ézéchiel pendant l'exil des Hébreux à Babylone, voit tout d'un coup apparaître ce qui est décrit, des roues volantes, donc déjà des roues comme des soucoupes et qui volent comme des ovnis dans le ciel et qui semblent être habitées par des créatures. Alors on peut dire que c'est des anges, on peut dire que c'est Dieu le Père, mais c'est peut-être tout à fait autre chose. Donc ça commence déjà il y a 3000 ans et peut-être bien plus. Et ça continue en s'intensifiant manifestement depuis que l'homme commence à faire de sérieuses bêtises par rapport à son environnement, par rapport à ses possibilités de destruction avec l'arme atomique, par exemple. Et donc, on a pu dire, mais est-ce vrai, j'en sais rien, mais vu de notre point de vue, ça peut être vrai, que les ovnis sont un peu des gardiens de l'univers et nous mettent en garde que si on continue à faire des explosions nucléaires tout le temps, eh bien, on risque de détruire la planète, de détruire l'humanité, peut-être même de déséquilibrer l'harmonie du cosmos.
La science, l'armée et quelques personnes très riches veulent conquérir l'espace, coloniser la Lune et d'autres planètes. Pouvez-vous vous imaginer qu'un jour, il aura une rencontre directe avec la troisième espèce de notre galaxie ou même d'une autre, d'un dromadaire par exemple?
L'autre d'un,
pardon? Galaxie.
Oui, ou d'un...
La rencontre directe,
oui.
Et... avec des hommes de notre galaxie ou même d'une autre.
Mais ça, j'en sais rien. Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'il n'y a pas de rencontre du tout. Puis même qu'ils n'existent pas, donc ça ne risque pas d'y avoir une rencontre. La deuxième, c'est qu'il y a des rencontres ponctuelles, comme on dit, élusives, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ni où, ni quand, ni comment, et c'est très incertain, c'est fugitif, on ne sait pas ce que c'est, puis en plus... La vision change de forme en cours même de la vision, donc c'est très difficile à cerner. Comme si les ovnis jouaient avec nous. C'est une possibilité. Ce qui suppose qu'ils sont très malins, très intelligents, et qu'ils ont une intention à notre égard, comme des comédiens ou un film qui a une intention, un message à donner au public qui va le voir. Donc un peu, c'est un peu l'idée qui sous-tend tout le film. En gros, c'est que les ovnis font du cinéma. Voilà. Et le cinéma fait des ovnis, bien sûr, Spielberg, Ridley Scott, Alien, etc., etc. Donc il y a un rapport très étroit entre les ovnis et le cinéma. C'est pour ça que j'ai fait un film. S'il n'y avait pas de rapport, ça n'aurait pas été suffisant pour motiver un film, puisque j'ai essayé de me servir du cinéma pour approcher le phénomène ovni.
Der fliegende Holländer... de Richard Wagner, 1843.
Thank you.
pensez-vous que l'humanité serait prête pour une rencontre avec des formes de vie extraterrestres?
Alors, justement, le cinéma nous montre de plus en plus des ovnis, Premier Contact, les Spielberg, E.T., Rencontre du Troisième Type, etc., etc. Il y en a pratiquement tous les ans un film qui sort, comme si le cinéma avait une, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais tendait à nous préparer à une rencontre. Voilà. Et peut-être savent-ils, après, on ne sait pas, qu'une rencontre est prévue, envisageable, à relativement brève échéance, mais ça, on n'en sait rien. C'est une hypothèse.
L'OVNI, un objet volant non identifié. Posons donc à la question de la technologie. D'un point de vue purement scientifique, comment cela peut-il fonctionner, les voyages interplanétaires et intergalactiques?
Alors, encore, c'est une très très bonne question. C'est compliqué. Parce que c'est tellement loin qu'il faut aller très très vite si on ne veut pas passer des années, des milliers d'années à faire le voyage. Alors, la première idée, c'est qu'ils ont des machines très puissantes qui vont aussi vite ou presque que la lumière. Mais même ça, ça fait quand même des milliers d'années-lumière. Donc il faudrait aller encore plus vite que la lumière. Aller dans le supralumineux, comme certains l'évoquent. Ou alors traverser d'autres dimensions. Donc peut-être que l'espace a plusieurs dimensions, qu'il y a des raccourcis. On a évoqué les trous de ver, les trous noirs, etc., qui permettent de ne pas faire des milliers d'années-lumière, mais de passer par des raccourcis, mais ça on ne sait pas faire. Mais peut-être que les ovnis savent faire. Il y a une autre hypothèse encore, à mon avis plus intéressante, c'est qu'on parle d'objets volants non identifiés. C'est déjà répondre à la question sans avoir de preuves. C'est-à-dire qu'on pense que c'est des objets. Mais ce n'est peut-être pas des objets. C'est peut-être, comme on pourrait dire, des sujets non identifiés. C'est-à-dire que ce n'est pas des tôles et des boulons, etc. Mais c'est des espèces d'ondes psychiques qui traversent l'espace à une vitesse incommensurable et qui entrent directement dans notre cerveau. C'est ce que dit le film, d'ailleurs, à un moment. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des rencontres, comme on se rencontre nous, avec un petit homme vert dans le jardin, ou une machine. Ça, c'est une rencontre médiatique, cinématographique. Mais il y a peut-être d'autres rencontres où les ovnis n'ont pas besoin de tous ces subterfuges visuels, sonores, etc. Et sont une conscience qui pénètre dans notre conscience directement. Donc nous sommes peut-être tous des ovnis. Tous des extraterrestres, sans le savoir.
Oui, très intéressant ça. Là, ça va travailler. Il faut que je pense sur ça. Mais est-ce que la téléportation quantique est la solution peut-être aussi pour les humains? Les trous de ver, quelle est la possibilité, plutôt la probabilité qu'ils existent? Et dans quelle mesure pensez-vous que la théorie Einstein-Rosenbrücke permette un jour à l'humanité d'effectuer des voyages interstellaires?
Je pense qu'on peut essayer ça, mais ça reste encore dans le domaine de la physique actuelle. Enfin, même c'est très avancé avec Einstein, avec la physique quantique, etc., etc. Mais je pense que les voyages, on peut les faire. D'abord, on les fait tous. Quand on meurt, soit s'il n'y a plus rien, d'accord? Donc on ne voyage plus, soit il y a encore quelque chose, et là on voyage. Et on voyage alors à une vitesse incommensurable, mais il n'y a pas besoin de fusée, il n'y a pas besoin de rien, c'est nous qui partons. C'est pour ça qu'il y a une hypothèse aussi qui est évoquée dans le film, c'est que les substances, les visions d'OVNI qu'ont certaines personnes ressemblent beaucoup aux visions qui sont provoquées par la déméthyltryptamine, la DMT, le LSD, des choses comme ça. Donc là encore, il y a une dimension psychique du phénomène qui est largement abordée dans le film, mais qui est souvent occultée. On considère qu'un truc finalement très physique, même si la physique doit évoluer, mais il faut aller au-delà de la physique. Mais si on va au-delà de la physique, ça devient métaphysique. Et là, bonjour, les réflexions philosophiques.
Je voulais dire ça, c'est un point de vue très philosophique. Et j'aime bien. Science de la frontière, ésotérisme, beaucoup de vos films traitent des sujets dans ces domaines. A-t-il pour vous un lien entre tous ces thèmes et lequel?
Oui, Oui, alors c'est une... oui, bien sûr, il y a un lien. Un lien, c'est une recherche. Si je fais des films, c'est pas pour... c'est pour le plaisir de faire des films, bien sûr, sinon j'en ferais pas. Mais c'est aussi pour essayer de comprendre. Alors comprendre quoi ? Bah, comprendre pourquoi on vit, pourquoi on est sur Terre et pas ailleurs, et pourquoi ici et pas ailleurs, pourquoi maintenant et pas il y a 10 ans ou dans 100 ans, et pourquoi on est là ? Et c'est une bonne question à laquelle personne ne peut répondre. Mais le cinéma, j'ai toujours considéré que le cinéma qui a une prise directe sur la réalité, à l'inverse de la musique, la peinture, qui passe par un média, un instrument de musique, un pinceau, etc. Le cinéma, il est direct. On met une caméra devant une maison, puis on filme la maison. Et donc, le cinéma peut être une façon d'interroger la réalité. Et c'est pour ça que dans le film, il y a beaucoup de plans qui paraissent anodins, des paysages, mais qui sont des interrogations par ma caméra du paysage. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce paysage ? Et peut-être a-t-il quelque chose à nous dire, mais à nous de le comprendre et de l'entendre et de le lire. Je peux faire, par exemple, c'est un peu compliqué, mais on est là devant une montagne, ça s'appelle le Bugarache. Qu'est-ce que le Bugarache a à nous dire ? Alors qu'il est une montagne, d'accord, et c'est son nom, c'est le Bugarache. Mais si on lit un livre de Jules Verne, par exemple, on a un capitaine Bugarache dans un de ses romans. Qu'est-ce qu'il vient faire là et quel est le rapport avec cette montagne ? Il y en a un, bien sûr. Je ne vais pas vous l'expliquer ici, ça nous mènerait très loin, mais que j'avais déjà creusé dans le film que j'avais fait sur Rennes-le-Château, le mystère de Rennes-le-Château, de la Bessonnière, etc. Par exemple aussi, je me suis intéressé à l'alchimie. Pourquoi l'alchimie ? Alors, est-ce qu'il fait de l'or ? Tout le monde se demande si on peut transmuter le plomb en or. J'en sais rien. J'ai fait un film qui fait 7h30 sur l'alchimie, je ne peux pas vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'alchimie, c'est ce que m'a appris le voyage alchimique, c'est une vraie vision du monde, qui est ancienne, qui a 3000 ans, et que nous avons un peu oublié, et qui est une vision du monde qui est très intéressante, y compris pour comprendre même le phénomène OVNI. Donc le cinéma est pour moi une façon d'interroger le réel, et si on l'interroge avec patience, avec sans préjugés, sans structure financière administrative qui vous dit votre film, vous avez 8 jours pour le faire, puis il faut qu'il soit fini. Moi je mets 8 ans, alors n'importe, bon, je l'ai produit moi-même, parce que n'importe qui peut, c'est pas possible que quelqu'un me dise allez-y, faites ce que vous voulez, et puis dépensez mon argent. Ben, c'est le mien, et donc je recherche, et quand on cherche, qu'on s'applique, qu'on s'enseigne, on trouve un petit peu. Mais pas encore tout, pour ça que je ferai d'autres films encore, si je peux.
Alors, parce que je voulais savoir, qu'est-ce qui vous motive, quelle est la force motrice, l'intention derrière votre travail, que cherchez-vous ?
Je viens de vous répondre. Je cherche à savoir pourquoi je suis là. Pareil, pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui là, c'est... Alors, il y a des explications de causalité très précises. Je fais un film, vous êtes là, hein, on fait une interview. Mais... Et après, pourquoi vous êtes ici ? Pourquoi moi je suis là ? Voilà, c'est très compliqué tout ça.
Et vous attendre pas du tout d'avoir la réponse ?
Ben, si, on va l'avoir. Je commence à l'avoir. Parce que plus on vit, parce que je suis plutôt jeune, plus on a accumulé des expériences ou des films. Et plus ces films, comme je vous l'expliquais, se répondent les uns les autres. Et ça construit une vraie quête et une vraie histoire qui finit par apporter, je ne dis pas des certitudes, mais des éclairages auxquels je n'avais pas pensé il y a 20 ans.
Je vous remercie pour cette très intéressante interview. Merci. Et j'ai une dernière question. Quelle est votre chanson rock préférée ?
Ah ben là, si vous m'aviez interrogé sur la musique classique, je vous aurais répondu parce que j'adore la musique classique.
C'est bon aussi, classique, rock, parce qu'à l'époque, c'était bien rock aussi. Alors,
oui,
on prend un morceau classique ?
Oui, il y en a beaucoup, tous.
tous.
Non, pas, par exemple, je vais vous en citer un qui est cité dans le film Les OVNIs. Justement, j'aime bien, c'est un opéra.
C'est Beethoven ou Mozart ?
Non, Wagner.
Wagner, ouh.
Et pourquoi j'ai cité un extrait du vaisseau fantôme de Wagner dans le film ? Il y a l'extrait de la bande sonore du vaisseau fantôme, uniquement la partition de l'orchestre, parce que le chanteur se fait beaucoup. Mais le vaisseau fantôme, c'est intéressant, parce que c'est un vaisseau, n'est-ce pas ? Donc, comme les ovnis sont des vaisseaux. Et si on prend la version allemande, Die Fliegen, des Hollander, c'est des Hollandais volants. Donc, c'est un vaisseau volant dont nous parle Wagner. Donc le vaisseau fantôme, c'est quelque part un ovni avec une sorte d'extraterrestre qui est le capitaine du vaisseau fantôme qui, ça rejoint très loin ça, qui est frappé d'immortalité, dont sa quête c'est la mort, parce qu'il en a marre d'aller de tempête à tempête et ça se répète et il ne trouve jamais ce qu'il veut. Donc il voudrait que ça s'arrête. C'est peut-être une critique du transhumanisme que nous fait Wagner.
Je remercie beaucoup Georges Combe. Bonne continuation.
Merci de vos questions qui étaient très, très intéressantes et très pertinentes. Merci.
Le psychologue Stephen Diamond a décrit ce phénomène mental de la manière suivante. C'est précisément la nature profondément mystérieuse et mutique des ovnis qui, comme les rêves, les rend si puissants sur le plan psychologique. Comme pour tous les phénomènes naturels ou métaphysiques, une fois que la science dissèque, analyse et explique mécaniquement des tels mystères, leur pouvoir lumineux, spirituel et potentiellement guérisseur s'éteint ou se perd. Et dans cet esprit-là, on va écouter le prochain morceau de UFO Silverbird.
Oh,
observations d'OVNI violent-elles notre compréhension de la physique? Let's listen to Creedence Clearwater Revival. And it came out of the sky.
Right now, I tell you the story of a good old local boy that made good. Plays bass, local 424. The story of the $17 million Fender bass that came out of the sky.
Chose plus profonde que la question de savoir si nous sommes uniques ou non dans l'univers. Si nous découvrions des microbes flottant autour de Vénus, si nous trouvions des signes de vie passée sur Mars, ou si nous recevions un signal radio d'être intelligent. Le cours de l'histoire de l'humanité sera changé à jamais. La recherche de la vie exige que nous gardions l'esprit ouvert. watching the sky. Golden Interstellar Voyager Record. La NASA a lancé en 1977 The Voyager pour quitter notre système solaire et voler dans l'espace vide. En 1990, 13 ans après son lancement, il est allé au-delà de Pluton et en 2003, il a quitté le champ de gravitation du Soleil et a voyagé dans l'espace vide. Depuis, alors la NASA a perdu tout contact. Sur le disque, il y avait ce morceau aussi de Blind Willie Johnson de 1933, je crois, ou 30. Dark was the night. On va écouter ça. Mm-hmm. Dessus des percussions de Sénégal sur le disque d'or dans l'espace, ça fait bouger.
La vie extraterrestre pourrait-elle déjà être parmi nous et nous ne la remarquons pas parce que nous n'avons pas les capacités ou l'imagination pour la détecter? Les ondes voyagent toujours dans l'espace à une vitesse de 10 miles par seconde, à plus de 12 milliards de miles de notre planète. Je viens aussi de cette planète. Et bien qu'aucun extraterrestre n'ait encore intercepté le voyageur de Voyager ou écouté le disque, l'espoir est qu'un jour ils le feront. Ces disques, les sons, la musique et les images qu'il contient pourront être la seule trace de vie sur Terre après notre disparition. Sur le disque se trouve aussi la voix du secrétaire général des Nations Unies et suivie des salutations en 55 langues, dont l'araméen, le birman, l'ourdou et plusieurs langues africaines. Cela montre la beauté et la diversité sur la planète Terre. Nous sommes là, une seule espèce, mais avec un cerveau si grand que nous avons inventé d'innombrables langues pour communiquer les uns avec les autres. Ougam, des sondes Azerbaïdjan. Das wohltemperierte Klavier, Bach. Disque d'or, un message cosmique en bouteille. Un message de l'humanité aux extraterrestres, promouvant la paix. À ce titre, ses producteurs, l'astrophysicien de Cornell, Carl Sagan, et d'autres, ont décidé de ne pas inclure les aspects déplorable de notre espèce. Les guerres, les bombes, les génocides. Et pourquoi il en dit qu'il ne voulait pas mettre du contenu qui est fondamentalement l'ennemi de la culture? On est en 2022. On veut conquérir d'autres planètes. On envoie des messages amicaux dans l'espace en cachant que depuis longtemps, la société humaine est bien foutue. Peut-être que nous devrions d'abord résoudre nos problèmes sur cette planète avant d'y aller ailleurs. C'est ce que moi je pense. Et nous n'aurions pas dû cacher nos problèmes dans nos messages interstellaires pour une deuxième raison. Ils vont le découvrir lors de leur visite. Ils vont être choqués ou comme nous, moralement non ou pas assez éduqués. Peut-être que nous aurions dû demander de l'aide aussi. Cela aurait du sens pour moi. De trouver une autre espèce qui connaît mieux que nous les sentiments, la morale et la spiritualité. Et qui nous aiderait à retrouver nos connaissances en tant que partie de la nature sur notre terre et en tant qu'être humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite heure. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne route et bonne chance. Je dis à bientôt et on va écouter le dernier morceau qui vole dans l'espace sur cette fameuse disque d'or. It's a real must-have. It's Beethoven avec la symphonie numéro 5 en C mineur opus 67.
Au paradis.